diffusés tous les jours, du mois d'août au mois de juillet, de 10h à 11h. Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Alexandre Dang à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle qui, à 10h50, dans le journal des Nouveaux Chemins, recevra David Rabouin pour vous parler de son Spinoza, un Spinoza pour une éthique locale. C'est le début, ce lundi, d'une semaine sur Gaston Bachelard, dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Gaston Bachelard, le dormeur éveillé. Une semaine dont le seul but est de vous transmettre le cuisant regret de ne pas l'avoir connu. Quand nous aurons fini d'évoquer aujourd'hui la biographie de Gaston Bachelard, nous parlerons demain et jeudi plus précisément de son épistémologie, en compagnie d'abord de Pascal Nouvel, puis de Didier Gilles. Nous reviendrons aussi sur son rapport à la musique, mercredi prochain avec Marie-Pierre Lassus. Et enfin, vendredi, la philosophe Cynthia Fleury, que les auditeurs des Nouveaux Chemins connaissent bien, s'aventurera pour vous dans les dédales imaginaires du philosophe-poète. Mais aujourd'hui donc, lundi, pour commencer avec l'or du Rhin, c'est avec Jean-Philippe Pierron, qui enseigne la philosophie à l'université Jean Moulin, l'université de Lyon 3, et qui participe au cahier Gaston Bachelard, que nous allons passer les 50 minutes qui viennent.
Vous me demandez qui je suis, il faudrait que je puisse vous dire qui je suis devenu. Et cette fois, je ne le sais pas, pour la bonne raison que j'ai été de livre en livre, sans jamais trouver, enfin, le repos, la certitude. Je ne sais pas ce que c'est que le temps dogmatique, et je crois, par conséquent, que je ne vous donnerai pas une bonne situation de ce que je suis. En réalité, j'étais fort mal parti dans la vie. Plusieurs de vos confrères m'ont demandé sur mes origines, et j'ai eu une jeunesse difficile. Je devais gagner ma vie. Je devais gagner ma vie dans un métier qui ne comportait pas, si vous voulez, en soi, un grand avenir. Et puis, venant tardivement à Paris, j'ai suivi des cours de sciences, me suis attaché à la vérité scientifique, et par conséquent, là, j'étais un élève studieux, qui est passé naturellement des certificats de licence sans grande difficulté. Mais dès que j'étais dans ma mansarde, je me payais tout de même quelques loisirs de lecture. J'ai toujours lu, beaucoup lu. Et beaucoup lu en achetant des livres, même quand je n'étais pas très fortuné. Ces livres ont été, si vous voulez, accumulés dans une bibliothèque que j'ai à Dijon. Mais est-ce que c'est un passé de lecteur? Même pas, parce qu'il n'y avait pas de ligne dans ces lectures. Mais vous voyez, les poètes ont été, si vous voulez, le bon temps de ma vie.
Gaston Bachelard est né le 27 juin 1884 à Bar-sur-Aube. Et il est mort il y a 47 ans et 255 jours, le 16 octobre 1962 à Paris, à l'âge de 78 ans. Dans l'intervalle, le philosophe fut non seulement l'artisan d'une œuvre considérable, poétique et scientifique, mais aussi et surtout l'auteur d'une existence exemplaire, en ce qu'elle est très exactement ce qu'on pourrait appeler une vie philosophique. « Toute ma vie est sous le signe du tardif », disait-il à ses amis. De fait, avant d'être philosophe, Bachelard a travaillé 10 ans dans l'administration des postes, d'abord comme surnuméraire, puis comme commis, dans un bureau parisien, tout en entamant des études universitaires. C'est en 1920, après une licence de mathématiques, un service militaire au 12e dragon et une croix de guerre, qu'il passe sa licence de philosophie. C'est en 22 qu'il obtient l'agrégation, à l'âge de 38 ans, avant de devenir docteur en lettres à 43 ans, en 1927, grâce à son essai sur la connaissance approchée. Il enseigne alors 10 années la philosophie à Dijon, puis à la Sorbonne, où de 40 à 54, il donnera des cours d'histoire et de philosophie des sciences, avant d'être accueilli à l'Académie des sciences morales et politiques. Autrement dit, Cet homme, l'homme du tardif donc, dont l'histoire retient qu'il était un bon vivant et qui disait de lui-même que le plus important était de prendre son temps, eh bien cet homme-là a travaillé de longues années, plus de 60 heures par semaine, avant de prendre sa retraite à contre-cœur à l'âge de 71 ans.
J'aime les mots. Il me semble que j'aurai encore du plaisir à lire des dictionnaires, à rêver sur les mots. Et ce que j'ai dit est tout de même un peu trop fantaisiste. Juger des mots par leur caractère masculin ou féminin, leur donner un genre d'une rigueur et les mettre quelquefois en communion, mais en hostilité. Oh, je me suis peut-être trop amusé en faisant cela.
Bonjour Jean-Philippe Pierron.
Bonjour.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Et une joie de commencer avec vous cette semaine sur Gaston Bachelard. On va commencer par le plus évident, le plus audible, la voix de Gaston Bachelard. Le meilleur argument, on se demandait en préparant cette semaine quelle était la meilleure façon de donner envie de lire Gaston Bachelard ou de donner le regret de ne pas l'avoir connu. C'est sa voix, indéniablement.
Oui, une voix, c'est assez émouvant de l'entendre, lui qui aussi a fait un petit peu de radio. C'est effectivement émouvant et c'est en même temps intéressant effectivement, de commencer par cette voix qui est à la fois douce, marquée aussi par un accent, une manière en fait de vivre son rapport à la terre. On pourrait dire presque qu'il y a du terroir déjà dans cette, ou du terreux presque dans cette voix.
Et du tellurique. Hein.
Et du tellurique.
Terroir, oui, terreux, tellurique. Hein, on va revenir
on
là-dessus.
On va revenir là-dessus, mais ouais. Je dirais en fait peut-être qu'on peut dire de sa voix ce qu'il disait à propos des odeurs. Hein. Il dit que les odeurs sont des détails immenses. Hein. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans la voix de Bachelard qui, aussi, qui nous rappelle qu'au fond, un accent, un timbre de voix, c'est d'abord un détail immense qui nous dit plus peut-être que ce que la pudeur de cet homme finalement n'a jamais voulu dire. Hein. C'est qu'il y a, on va en parler beaucoup et cette semaine qui va nous présenter Bachelard à la fois comme épistémologue et comme spécialiste d'une poétique, c'est aussi un homme très pudique sur un certain nombre de grandes questions morales, politiques, la question de la souffrance, etc.
Sur des questions biographiques, Jean-Philippe Pierron, parce que c'est ça qui est étonnant. On, finalement, l'extrême discrétion de Bachelard sur son enfance, sa jeunesse, ses études, son travail, la guerre et les épreuves qui l'accompagnent, qui vont avec, cette extrême discrétion fait que nous n'avons finalement là-dessus que des informations standards. Assez peu d'anecdotes, quelques-unes quand même, on pourra en parler, mais assez peu d'informations. Ce que je veux dire, c'est que quand on raconte la vie de Bachelard, on raconte son œuvre, au fond.
Oui, et en même temps, ce qui est assez étonnant, je me faisais cette réflexion, c'est que la pudeur de Bachelard, elle est en même temps tempérée par des fulgurances qu'on entend déjà dans un accent, mais qui sont aussi des fulgurances qui pénètrent son texte. C'est-à-dire que Bachelard est un philosophe qui n'hésite pas, lorsqu'il écrit, malgré tout, à rappeler quelques moments importants ou en fait qui sont à ses yeux en fait centraux pour pouvoir raconter ce qu'il a à dire. Et donc je prends un exemple, le fameux texte de la psychanalyse du feu, où pour pouvoir nous parler en fait de cet homme qu'il définit comme un être du désir et non pas comme une création du besoin, il commence par évoquer en fait les gaufres qu'il mange ou qu'il mangeait
et qui cuisent et le feu qui l'œuf qui cuit pour lui
qui cuit chez sa grand-mère. C'est-à-dire en fait que à chaque fois en fait chez Bachelard il y a effectivement une grande retenue, et en même temps, c'est un philosophe dont le style n'hésite pas à manifester, à partir du détail immense de sa biographie, des éléments qui peuvent être universalisables.
Au fond, cette discrétion s'accommode chez lui d'une attention extrême portée à certains épisodes de son existence, des épisodes génériques, puisque c'est tous les jours qu'il y a du feu chez Bachelard, il y a des cheminées dans toutes les pièces de ses maisons, hein. C'est tous les jours, c'est tout le temps qu'il y a du feu chez Bachelard, et c'est constamment, en tout cas constamment pendant son enfance, qu'il y a une gaufre pour lui qui est en train de cuire, un œuf qui est en train de cuire dans le brasier de la cheminée. Et c'est à partir de ce détail-là qu'il élabore une psychanalyse du feu. Ce qu'il dit de lui-même, au fond, n'a de sens que dans la mesure où ça le dépasse. Est-ce qu'on peut dire ça, Jean-Philippe Pierron ?
Oui, enfin, on pourrait aussi commencer par redire qu'une vie, on a commencé par la question d'une vie, ça n'est pas qu'une biographie. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose qui résiste chez Bachelard à la linéarité, j'allais dire, du curriculum. Hein, cette manière, en fait, de raconter une vie à partir, finalement, des éléments extérieurs qui manque d'intensité. Et au fond, effectivement, la question en fait, du détail immense, hein, qui devient chez lui une manière de dire l'essentiel, elle est une façon de raconter le temps à partir de moments, effectivement, choisis, sur un mode un peu discontinu, mais une discontinuité d'intensité. Hein. C'est-à-dire que je crois que ce qui est central...
Qu'est-ce que vous appelez une discontinuité d'intensité ?
Il y a cette idée, en fait, chez Bachelard, que d'une résistance à, comment dire, une façon un peu trop rapide de penser qu'on aura tout dit quand on a dit que la réalité est complexe. Avant d'être complexe, le monde ou l'existence est intense. Et l'expérience poétique, ces petits moments fulgurants de la gaufre qui cuit ou bien d'une balade sur les oserets du pays de Bar-sur-Aube, etc., sont à leur façon une manière effectivement de rappeler que le premier d'une vie, c'est d'abord l'intensité d'une expérience, une odeur, un son, une ambiance, qui ensuite va pouvoir être déclinée, dialectisée, complexifiée. Je crois que c'est ça qui est en jeu.
Le paradoxe donc d'une discontinuité qui repose également sur du non quantifiable, de l'inquantifiable. En général, par exemple chez Bergson, la discontinuité est en un sens conjurée par l'intensité de ce dont il parle. Ce qui est discontinu, ou plus exactement, ce qui est continu, est continu chez Bergson dans la mesure où ça n'est pas quantifiable, justement, ça n'est pas sécable en éléments, en unités primitives. Chez Bachelard, la discontinuité, la rupture, terme très important dans son épistémologie, comme dans son existence d'ailleurs, la rupture, la discontinuité, repose également sur une conception qualitative et non quantitative, des choses, en tout cas des expériences comme celle de la gaufre dans l'âtre, Jean-Philippe Piron.
Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant qu'on commence d'entrée de jeu, j'allais dire, de situer Bachelard par rapport à Bergson, puisque Bachelard dira de Bergson que de Bergson, j'accepte tout, sauf la continuité. Hein. Et donc, effectivement, pour penser une trajectoire, pour penser une expérience poétique, pour essayer de raconter une vie et l'expérience faite de l'homme dans son manière d'être au monde, ce qui intéresse effectivement Bachelard, c'est dans ce qu'il appelle, dans la dialectique de la durée, c'est l'importance en fait effectivement du rapport à l'instant. Donc effectivement, ce qui est central pour lui, c'est la fulgurance de ce qui se manifeste dans l'instant, plutôt que la continuité ou la linéarité en fait, de la durée au sens bergsonien du terme. Donc effectivement, c'est ce moment de la fulgurance qui est central chez lui. Hein. Et donc il va capter, on pourrait dire que dans sa manière de lire la poésie en particulier, si on délaisse sa vie pour la poésie, ce qui l'intéresse au fond dans la vie des images poétiques, c'est comment elles sont toutes une façon, ces images, de réveiller de façon fulgurante notre manière d'être au monde. Et c'est pour ça d'ailleurs en fait qu'il parlera d'images et pas de métaphores. Hein. Le souci du poète, c'est effectivement de réveiller nos images du monde, d'éveiller hein, de grandes images du monde, là où les métaphores sont, du point de vue littéraire, tellement bien inscrites, tellement formées et informées dans la dimension rhétorique, qu'elles manquent en fait de la puissance d'expressivité attachée à l'image. Autrement dit, ce qui l'intéresse, pour employer une expression d'un autre philosophe qui est très discret dans son rapport à Bachelard, qui est Ricoeur, hein, et ce qui l'intéresse, c'est le vif de la métaphore. Et donc, parler d'image, pour Bachelard, c'est mettre l'accent, effectivement, sur ce vif qui saisit l'instant, ce même instant qui nous saisit nous-mêmes.
Comme le feu saisit la gaufre, et comme on est saisi par l'immensité des détails, immensité qui est elle-même un effet de l'attention qu'un sujet, je mets ici le mot entre guillemets, puisque la notion de sujet est complexifiée chez Bachelard singulièrement, l'attention donc qu'un sujet, entre guillemets, est susceptible de lui porter. On va entendre tout de suite, il y a un extrait d'un texte tardif de Bachelard, puisqu'après tout on raconte sa vie, on peut commencer par la fin. C'est un extrait de la flamme d'une chandelle, lu par Anne Brissier. Écoutez.
Avant de philosopher, peut-être faut-il revoir. Peut-être, faute de revoir, faut-il réimaginer ce rare phénomène du foyer, quand la flamme tranquille détache de son être des flammèches qui s'envolent, plus légères et plus libres sous le manteau de la cheminée. Ce spectacle, je l'ai vu bien souvent en de rêveuses veillées. Parfois, ma bonne grand-mère, d'une chénevote adroite, rallumait au-dessus de la flamme la lente fumée qui montait le long de l'âtre noir. Le feu paresseux ne brûle pas toujours d'un seul trait tous les élixirs du bois. La fumée quitte à regret la flamme brillante. La flamme avait encore tant de choses à brûler. Dans la vie, il y a aussi tant de choses à réenflammer. Et quand la surflamme reprenait existence, « Vois, mon enfant, me disait la grand-mère, ce sont les oiseaux du feu. Alors, moi-même, rêvant toujours plus loin que parole d'aïeul, je croyais que ces oiseaux du feu avaient leur nid au cœur de la bûche, bien caché sous l'écorce et le bois tendre. L'arbre, ce porte-nid, avait préparé, tout au cours de sa croissance, ce nid intime où nicheraient ces beaux oiseaux du feu. Dans la chaleur d'un grand foyer, le temps vient d'éclore et de s'envoler.
Depuis toujours chez Bachelard, il y a le feu. D'ailleurs, dans toutes ses maisons, il y a des cheminées dans toutes les pièces. Son foyer, sa maison d'intimité absolue, comme il dit, n'est pas uniquement la maison de son enfance nichée au creux des vallées de l'Aube, c'est aussi la cheminée dans laquelle sa grand-mère rallumait les flammes endormies et où on faisait tout cuire à la fois, les pommes de terre, les œufs, les gaufres et les galettes. Son foyer, c'est aussi celui du marc de vigne que son père laissait flamber autour des morceaux de sucre cassé. Son foyer, c'est la flamme d'une chandelle, enfin, qui, posée sur le bureau du philosophe, brûle les ailes des papillons, fournit la première matière de ses rêveries. Avant de réfléchir, Bachelard contemple. Avant d'être adulte, il est enfant, ce qui est très rare. Avant d'être philosophe, il est poète. En fait, la séduction du feu est si définitive chez lui qu'on a l'impression, en lisant Bachelard, qu'en matière de flamme, le poème l'emporte sur le théorème. Le philosophe Jean-Philippe Pierron, qui travaille au cahier Gaston Bachelard et qui enseigne à Lyon 3 à l'université Jean Moulin, est aujourd'hui l'invité des nouveaux chemins de la connaissance, au début, au commencement d'une semaine sur Gaston Bachelard. Jean-Philippe Pierron, qu'est-ce qu'il entend quand il parle de surflamme ? De façon générale, il se sert beaucoup de cette préposition « sur ». Oui. Quel usage en fait-il ? Comment comprendre
d'abord,
ça ?
Je trouve d'abord intéressant ce que vous disiez précédemment, en fait, que Bachelard est à la fois l'homme du théorème et du poème. Quand il parle en fait du feu, hein, lui qui est chimiste, il pourrait en parler en épistémologue, il en parle aussi en poète, et au fond, effectivement, c'est cette dialectique-là qui est intéressante. Alors effectivement, dans la question de la surflamme, je crois que ce qui est en jeu, c'est finalement qu'est-ce qu'il en est du travail de l'imagination dans son rapport au réel. Et l'idée de Bachelard, c'est que au fond, l'imagination, c'est cette puissance en fait créatrice en nous qui n'est pas simplement une puissance de création des images, mais une puissance de déformation des images. Autrement dit, la force de l'imagination, ce n'est pas de répéter le réel, hein, mais au contraire, c'est d'inventer une faille qui permet effectivement de le faire entendre, de le faire percevoir.
Elle est profondément dynamique. Il n'y a pas d'imagination. Dans le premier élément, quand on entendait Bachelard dire « Vous me demandez qui je suis », il serait plus juste de dire « Qui je suis devenu ». On a le sentiment immédiat d'un homme qui n'envisage les choses justement que sous l'angle ou l'aspect de leur mobilité ou de leur dynamisme. Est-ce qu'on peut appliquer ce modèle à la question de l'imagination ?
Alors, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que ce qui est assez intéressant, c'est que quand il réfléchit sur l'imagination, Bachelard, alors là, il prend l'exemple du feu. Hein. On sait que Bachelard va le faire à propos des quatre grands éléments, en fait, de la tradition de la cosmologie, hein, la terre, l'eau, etc., l'air. Donc, dans le cadre du feu, effectivement, ce qui est en jeu pour Bachelard, c'est de mettre l'accent sur la dimension, effectivement, dynamique de ceci et montrer un peu l'inventivité attachée à la force de ces images. Donc en fait, Bachelard, lorsqu'il réfléchit sur l'image du feu, c'est sa dimension créatrice qui est ici en jeu, purificatrice, et je veux dire que l'ensemble des méditations qu'elle peut produire. Il le fera depuis la psychanalyse du feu jusqu'à un livre inédit qui s'appellera La poétique du feu, puisqu'il reviendra deux fois en fait sur cette image en fait du feu.
Livre inabouti. Le dernier qu'on connaisse, il me semble, c'est La flamme d'une chandelle. Oui. Donc il a terminé sur le feu, commencé avec l'eau en un sens et terminé sur le feu. Encore que non, vous avez rappelé La psychanalyse du feu, qui est un texte plutôt récent, plutôt de jeunesse, me semble-t-il.
Bah, c'est-à-dire que c'est un texte qui est assez intéressant parce qu'il est un peu en rupture, par rapport au travail en fait, qui le précède. C'est-à-dire qu'en fait, il est d'abord connu, Bachelard, comme épistémologue et travaille sur la question en fait, de la propagation de la chaleur. Autrement dit, la question du feu l'intéressait en chimiste, tout d'abord. Donc, autrement dit, l'épistémologue et l'historien des sciences a mis son point d'honneur à travailler sur une critique des images du feu, précisément, en tant que ces images sont saturées en fait de tout un onirisme qu'on pourrait penser non rationnel, en tout cas qu'il faudra rationaliser, donc il faudra combattre. Autrement dit, les images du feu sont d'abord, pour celui qui veut conceptualiser ou théoriser, à combattre, mais les images du feu, pour le poète, au contraire, sont à habiter. Et donc ce livre qui s'appelle « La psychanalyse du feu », qui est son premier grand livre de poétique, d'une certaine façon, il est en rupture avec le Bachelard épistémologue, mais c'est bien le même homme quand même.
C'est ce que j'allais vous dire, Jean-Philippe Piron, on est au cœur de Bachelard là. Rupture et continuité simultanément.
Tout à fait.
Rupture et continuité simultanément. C'est un épistémologue dont il faut dire à quel point il pointe l'adversaire empirique. Hein. L'adversaire, c'est vraiment celui qui s'en tient à ses impressions, justement, en matière de connaissance. Il est même parfois d'une âpreté, d'une sécheresse, d'une dureté. Par exemple, on a des philosophes beaucoup plus indulgents que Bachelard à l'endroit de l'expérience. Spinoza lui-même refuse de tenir l'expérience ou le premier genre de connaissance pour une erreur à part entière. Il dit c'est une vérité mutilée, c'est une vérité partielle. Non, pour Bachelard, il faut révoquer ça quand il s'agit de connaître. Et en même temps, il a consacré la moitié de sa vie et la moitié de son œuvre, et peut-être la plus belle moitié de son œuvre, à explorer, à fouiller, non pas à analyser, mais à exaucer ce genre d'expérience que l'épistémologue en lui s'attachera à combattre.
Oui, c'est-à-dire que c'est assez étonnant le fait que ça soit le même homme, qui soit, on le disait, homme du poème et l'homme du théorème, le même, et non pas l'un ou l'autre. Il ne se choisit pas, mais effectivement, il y a deux pans de son œuvre. Et donc l'enjeu effectivement du travail, du travail de l'épistémologue, c'est le titre d'ailleurs d'un de ses livres, c'est effectivement de penser quasiment une philosophie du non. Faire des sciences, c'est dire non aux préjugés, c'est dire non aux images premières, c'est se rappeler que quand l'homme va chercher à connaître, il est toujours vieux d'une histoire, habité par la profondeur et l'épaisseur de toutes les images qu'il porte, de toutes ces images que de l'autre côté, effectivement, la poétique cultive. C'est-à-dire que effectivement, le travail de Bachelard, homme du poème, en tout cas amoureux finalement des mots dans leur puissance de rénovation de notre être au monde, eh bien ce Bachelard-là est attentif effectivement à la fonction, qu'a l'image poétique comme manière d'immédiate épreuve du réel. Donc d'un côté, on pourrait dire il y a le langage de la preuve.
Il faut entendre épreuve en double sens.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a du côté...
Faire l'expérience et en même temps surmonter l'obstacle qu'il constitue.
Tout à fait. Et on pourrait en rajouter en disant que d'une certaine façon, du côté de la philosophie des sciences, il y a le souci de la preuve expérimentale, donc le combat contre l'épreuve, justement, contre l'expérience au sens existentiel du terme, au sens subjectif du terme, alors que dans l'expérience poétique, il y a une partialité cultivée. Autant la science cherche à être impartiale, autant il y a une conquête finalement de l'objectivité. C'est cette idée que faire de la science, c'est franchir des obstacles. Autant la dimension en fait, du poétique, au contraire, elle est une partialité habitée, cultivée, délibérée, parce qu'il s'agit effectivement de vivre jusqu'au bout les images. Et ce que dit Bachelard quand il va lire les poètes, c'est dire qu'il ne s'agit pas de lire en continu la poésie, mais de laisser ruminer une image pour voir en quel sens cette image pointe une faille, une fracture singulière qui est inédite et inouïe. Et c'est cette inouïe, du poème que traque, Bachelard, lecteur des poètes.
On va revenir sur Bachelard, lecteur des poètes, mais il faut aller vers Bachelard 2, puisque cette évocation que nous proposons de Bachelard en votre compagnie, Jean-Philippe Piron, et à vous entendre, je me dis qu'on a bien fait de le faire avec vous, cette évocation de Bachelard est une évocation forcément polymorphe du personnage. On va l'entendre cette fois-ci faire un cours justement sur le concept lui-même, la façon dont la façon dont il parle de la logosphère. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Bachelard lui-même, en pédagogue, accordait autant d'importance, au dire de ses élèves, à la fabrication d'un concept qu'aux recettes de cuisine, du moins si l'on en croit le témoignage de ses élèves. Et pourtant, ce qu'il enseigne est en un sens extraordinairement abstrait. Écoutons-le.
Je crois que au seuil de cette conférence. Il serait peut-être bon que nous créions un mot nouveau. S'il n'y a pas de mot nouveau, il n'y a pas d'acquis pour une conférence. Vous savez que... Alors, je vais prendre le problème tout à fait cosmique et vous montrer, par conséquent, que toute la planète est en train de parler. Mais il va falloir mettre un concept. Eh bien, le concept est le suivant. Je vais le placer au milieu de concepts très métaphysiques. Les métaphysiciens, les bergsoniens, ont parlé d'une biosphère, c'est-à-dire, par exemple, d'une petite couche vivante, où il y avait des forêts, où il y avait des animaux, où il y avait des hommes même. Alors ça, c'est la biosphère. Et puis, les idéalistes, il y en a partout, ont parlé de la noosphère, par conséquent d'une sphère de pensée. On vous a parlé de la stratosphère, on vous a parlé de la ionosphère, les principes physiques de la radio, heureusement, bénéficient d'une couche ionisée. Eh bien, quel est le mot qui convient pour cette parole mondiale, pour cette parole cosmique? Eh bien, c'est la logosphère. Nous parlons tous dans la logosphère. Vous êtes ici, si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure, avec moi, les citoyens de la logosphère.
Quand le martien...
Professeur, Bachelard était toujours en mouvement. Il avait l'œil vif, intense, le regard concentré. C'était un homme dynamique. Il parlait d'abondance, sa pensée semblait couler de source parce qu'il transmettait une conviction profonde. Il avait des évocations et des gestes nombreux pour parler du plaisir enfantin que certains grands enfants ont conservé, il se mettait du nombre, le plaisir de tatouiller, de triturer, de pétrir. Alors il faisait le geste de la ménagère qui tripote sa pâte à tarte. Ou bien il évoquait sa grand-mère champenoise prenant les différents éléments pour élaborer de la pâte. Et c'était une cérémonie, un tel rituel, qu'on sentait le parfum de la tarte qui débordait dans la salle. Comme on était bien sûr très privé à cette période-là, on en coulait de plaisir à l'écouter, tant sa langue était savoureuse. C'est une belle évocation par Denise Laborde, qui était l'élève de Gaston Bachelard, de Bachelard professeur, Jean-Philippe Pierron. Dans le même temps, Bachelard professeur, ce que Bachelard professeur enseigne, est extraordinairement parfois désincarné. Il est de ces professeurs, ou en tout cas de ces épistémologues, qui disaient qu'un peu d'abstraction nous éloigne de la réalité, mais que beaucoup nous y ramènent. C'était donc au nom de la réalité qu'il prenait congé de l'expérience première. Jean-Philippe Pierron.
Oui, j'ai un ami...
La réalité était au bout du chemin pour Bachelard, et pourtant il triturait ses cours comme on triture de la pâte à tarte.
Oui, alors c'est toute la question en fait de ce qu'on appellera réalité. Hein, et effectivement, pour celui qui a souci de conceptualiser, hein, il y a effectivement cette idée que le trajet qui nous mène vers la réalité est un trajet semé d'embûches et d'obstacles qu'il va falloir franchir. Hein, il appellera ça des obstacles épistémologiques, vous en reparlerez cette semaine. Et l'enjeu, c'est effectivement de dire que la réalité qu'il s'agit de connaître n'est pas donnée. Hein. Elle est finalement à découvrir par une série, je veux dire, de sauts, de combats qu'il va falloir mener. Et donc effectivement, ce combat qui consiste à lutter contre nos intuitions premières, contre nos expériences premières, contre notre manière initiale que nous avons d'être au monde, les évidences données par notre expérience corporelle, par l'ensemble de ces expériences sensorielles auxquelles le poète pourra de nouveau être sensible, il s'agit en fait effectivement pour Bachelard de dire que la réalité, comment dire, du scientifique est une réalité conquise. Hein. Elle n'est pas donnée, elle est effectivement conquise par un esprit méthodique, hein, combattant.
Un esprit méthodique qui procède également d'un rejet du sujet. Il met en exergue de la psychanalyse du feu. D'ailleurs, c'est marrant qu'il le mette en exergue de la psychanalyse du feu. Une phrase, un vers d'Éluard, magnifique. Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis.
Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'objectif, si l'on peut dire, hein, c'est d'atteindre l'objectivité. Et donc, de ce point de vue-là, de combattre tout ce qui, de nous, investit le rapport au réel qu'il s'agit de connaître. Donc, effectivement, mettre le jeu hors sujet, si l'on peut dire, dans la question de l'activité connaissante, c'est d'essayer d'inventer une conceptualité, justement, qui, pour être universelle, ne soit pas référée a une individualité particulière. Ce qui fait que la grandeur de la science, de ce point de vue, c'est effectivement de parvenir, enfin des sciences, hein, c'est de parvenir à nous donner, par le biais de la formation scientifique, eh bien, un point de vue sur le réel qui puisse être partageable par toute raison connaissante, hein, pour peu qu'elle se donne, les moyens de le faire, c'est-à-dire en l'occurrence, effectivement, qu'elle apprenne à dire non. La pédagogie bachelardienne est une pédagogie du refus, hein, une pédagogie du non.
Et la poétique de Bachelard est une poétique de l'acceptation, de l'amour, de l'adhésion au réel. Il dit « les poètes ont été le bon temps de ma vie ». Bachelard, intuitivement, opposait-il ces deux démarches en lui-même ou bien nourrissait-il paradoxalement l'une par l'autre? Au fond, c'est ça la question qu'on se pose. C'est cet homme dual, profondément dual, dont il faudra faire sentir la dualité tout au long de cette semaine, ne serait-ce d'ailleurs que pour la contester en un sens et éventuellement revenir sur cette rupture. Bachelard lui-même a-t-il théoriser le passage de l'une à l'autre ou bien a-t-il considéré que c'était finalement deux chemins que le promeneur qu'il était pouvait emprunter alternativement ?
Non, il ne le théorise pas, mais il le met en œuvre. Sa façon à lui de le théoriser, c'est de faire à la fois une épistémologie et une manière très très originale, au fond, de faire de la philosophie des sciences. Il fonde finalement une manière de faire de la philosophie des sciences à la française. Et de l'autre côté, effectivement, une poétique qui renouvelle et réveille nos analyses littéraires. Mais il tient les deux. Autrement dit, il n'y a pas ou l'homme du poème ou l'homme du théorème. Il y a les deux, et je dirais c'est peut-être ça le secret de cet homme, hein, que d'avoir tenu ou cherché à tenir ensemble ce qui pourrait apparaître une contradiction. C'est-à-dire que quand on parle parfois de l'héritage bachelardien, on a dans les héritiers, si je puis dire, soit tendance à valoriser l'épistémologue en négligeant le poète, ou de l'autre côté à valoriser la poétique au détriment en fait de l'épistémologique. Or, ce qui est intéressant, c'est précisément cette dialectique. Ce qui fait que, en ce sens-là, la méthode bachelardienne est moins de l'ordre de la, comment dire, d'une pensée systématique que d'une pensée, effectivement, qui maintient le travail, la tension ouverte de toute dialectique.
Dans le même temps, quand vous employez le mot de dialectique, il ne faut pas l'entendre au sens où on peut l'entendre ordinairement quand on est en deuxième année de philo à la fac, c'est-à-dire que la dialectique procède par négation du précédent. L'idée même de dialectique chez Bachelard est une dialectique sans négation, en un sens. Il n'y a pas de négation de l'objet que l'on surmonte.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de dialectique à synthèse ouverte qui ajourne, j'allais dire, en fait, qui ne cherche pas à se résoudre dans le dépassement de l'un par l'autre. Parce qu'effectivement, ce qui est assez étonnant chez Bachelard, c'est que Bachelard montre, quand il fait de l'épistémologie, qu'il y a des images qui sont présentes en science qu'il s'agit de combattre. L'image que j'ai de la matière pesante, eh ben pour la comprendre comme masse, il faudra que je lutte contre l'image du poids. Il montre de l'autre côté que quand il réfléchit sur la poésie et sur l'imagination poétique, eh bien qu'il y a une logique des images. Autrement dit, Bachelard procède un peu en chiasme de ce point de vue. Il y a de la logique dans l'imagination, il y a de l'imagination dans l'activité épistémologique. Mais une fois qu'il a dit ceci, il ne tranche pas. Il ne s'agit pas de dépasser l'un par l'autre.
De sorte qu'il peut parler simultanément de connaissances approchées, de psychanalyse du feu, de propagation thermique dans les solides et d'imagination de la matière, de valeur inductive de la relativité. Tout ça, c'est des titres de Bachelard.
Oui, tout à fait.
Comme de la terre et des rêveries de la volonté, d'un nouvel esprit scientifique, mais aussi de l'air et les songes, des intuitions atomistiques et des images de l'intimité, du pluralisme cohérent de la chimie moderne, de l'activité rationaliste de la physique contemporaine, de la formation de l'esprit scientifique, mais aussi de la poétique de l'espace, la poétique de la rêverie, les rêveries du repos et la flamme d'une chandelle. En mêlant les registres, Gaston Bachelard, l'homme du tardif, est en avance sur son temps.
C'est près de l'eau et de ses fleurs que j'ai le mieux compris que la rêverie est un univers en émanation, un souffle odorant qui sort des choses par l'intermédiaire d'un rêveur. Si je veux étudier la vie des images de l'eau, il me faut rendre leur rôle dominant à la rivière et aux sources de mon pays. Je suis née dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le Valage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses vallons. La plus belle des demeures serait pour moi au creux d'un vallon, au bord d'une eau vive, dans l'ombre courte des saules et des osières, et quand octobre viendrait, avec ses brumes sur la rivière. Mon plaisir est encore d'accompagner le ruisseau, de marcher le long des berges, dans le bon sens, dans le sens de l'eau qui coule, de l'eau qui mène la vie ailleurs, au village voisin. Mon ailleurs ne va pas plus loin. J'avais presque 30 ans quand j'ai vu l'océan pour la première fois. Aussi, dans ce livre, je parlerai mal de la mer. J'en parlerai indirectement, en écoutant ce qu'en disent les livres des poètes. J'en parlerai en restant sous l'influence des poncifs scolaires relatifs à l'infini. En ce qui touche ma rêverie, ce n'est pas l'infini que je trouve dans les eaux, c'est la profondeur. D'ailleurs, Baudelaire ne dit-il pas que 6 à 7 lieues représentent pour l'homme rêvant devant la mer le rayon de l'infini ? Le valage a 18 lieues de long et 12 de large. C'est donc un monde. Je ne le connais pas tout entier, je n'ai pas suivi toutes ses rivières. Mais le pays natal est moins une étendue qu'une matière. C'est un granit ou une terre, un vent ou une sécheresse, une eau ou une lumière. C'est en lui que nous matérialisons nos rêveries. C'est par lui que notre rêve prend sa juste substance. C'est à lui que nous demandons notre couleur fondamentale. En rêvant près de la rivière, j'ai voué mon imagination à l'eau verte et claire, à l'eau qui verdit les prés. Je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde, sans revoir mon bonheur. Il n'est pas nécessaire que ce soit le ruisseau de chez nous, l'eau de chez nous. L'eau anonyme sait tous mes secrets. Le même souvenir sort de toutes les fontaines.
Et c'est ainsi que, justement, Paul Claudel bouscule toutes les métaphores superficielles en s'écriant dans les grandes odes « Vos sources ne sont point des sources, l'élément même, la matière première, c'est la mer, je dis, qu'il me faut. » Ainsi, dans le style de la psychanalyse, l'eau de jouvence est le symbole du retour au sein maternel. Elle est une marque, entre beaucoup d'autres, de la primitivité des images maternelles de l'eau.
Gaston Bachelard est un philosophe de l'enfance, et donc ça n'est pas un philosophe du commencement, bizarrement. Le point de départ, la connaissance du premier genre, c'est l'émotion, c'est l'anthropocentrisme enfantin qui confond le monde avec le désir qu'on en a. Et quoi qu'il distingue la connaissance commune de la connaissance scientifique, Bachelard n'a pas de goût pour ceux qu'il appelle déjà les chevaliers de la table rase, entendez Descartes, ceux qui croient pouvoir abolir le passé, donner par la même ou se donner par la même une origine radicale. Ceux qui le pensent, contrairement à ce qu'ils pensent, ne pensent pas vraiment. Penser, dit Bachelard, c'est aussi assumer la déformation constante de son esprit. Alors bien sûr, il y a une différence entre l'illusion et la vérité, entre la science et l'image, mais ces ruptures, comme il dit, ne sont peut-être pas des reniements. Au contraire, l'esprit n'est pas un espace immaculé dont on pourrait effacer par une décision toutes les traces que l'expérience première y a inscrites. Le sujet pur n'existe pas, tout le monde est souillé. On ne peut pas pasteuriser les humains, Jean-Philippe Pierron.
Oui, c'est une belle formule. Je me disais, de la même façon, en fait, qu'on n'a rien compris de l'eau une fois qu'on a... En tout cas, on a rien compris, on a peut-être connu de l'eau une fois qu'on a dit qu'elle était H2O. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, cette question de la pasteurisation, du réel, hein, elle est intéressante à pointer, parce que quand Bachelard parle si bien, en fait, de l'eau et de lui qui est un rêveur des berges, d'une certaine façon, l'eau dont il parle, effectivement, ça n'est plus celle du chimiste, hein, mais celle dont il va parler avec le vocabulaire en fait de l'alchimie, puisqu'il l'a lu, il connaît bien effectivement l'alchimie, et donc c'est le grand élément, hein, l'eau comme un des grands éléments dont on a parlé, qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure, et donc ce qui l'intéresse cette fois-ci, c'est effectivement des matières qualifiées. Des expériences toujours singularisantes. Et donc, il y va y avoir donc non plus l'eau H2O, mais des eaux.
Quand vous parlez d'expériences singularisantes, est-ce qu'on ne peut pas, là, pour le coup, rétablir une forme de continuité entre les deux expériences, ou plus exactement entre l'expérience intuitive de l'enfant ou l'intuition sensible de l'enfant, et de l'autre côté, la démarche ou la construction de l'épistémologue. Ces expériences singularisantes, cet oxymore
C'est un oxymore du point de vue de Bachelard. Mmh. Parler d'expérience singularisante, mmh. puisque c'est l'abstraction qui singularise chez Bachelard. C'est pas l'expérience en un sens. Même si, alors il y a dans son épistémologie un retour au singulier par le biais de l'abstraction. Pour le dire autrement, en général, quand on abstrait quelque chose, quand on fabrique un concept, on fabrique un ensemble mmh. et on va du singulier au général. Mmh. Or, Bachelard donne le sentiment, quand il élabore des concepts, d'aller du général au singulier. Comment ça marche, ça ?
C'est-à-dire que c'est toute la différence peut-être entre expérience et expérimentation. C'est-à-dire que effectivement dans le démarche, enfin de l'expérimentation scientifique, il s'agit effectivement en fait d'aller, je veux dire que d'aller vers le général pour retrouver le singulier connu, reconnu conceptuellement. Là où l'expérience en fait poétique hein, du rapport au monde, au contraire, cherche, je veux dire, à trouver comment dire du général à partir effectivement de la culture d'une implication. C'est-à-dire qu'on pourrait dire une sorte d'universel sans concept. Ce n'est pas du tout le langage de Bachelard, hein, bien évidemment.
Ça, c'est le langage de Kant.
Hein. C'est
la critique de la faculté de juger. C'est l'universel sans concept. Pourquoi pas ?
Mais effectivement, on retrouve ici en fait, des choses qui ne sont pas très, très éloignées autour de la question effectivement, de l'imagination. Et en fait, ce qui pourrait lier, de ce point de vue, Bachelard à Kant, c'est cette revalorisation, enfin, c'est cette valorisation tout court, je veux dire, de l'imagination dans sa dimension créatrice, hein, dans sa dimension productrice.
Ça, c'est Cynthia Fleury qui va nous en parler vendredi prochain, puisqu'elle a travaillé beaucoup sur ces deux questions, justement le lien qu'on peut faire entre l'esthétique transcendantale et, chez Kant, et l'imagination bachelardienne. Un instant sur cette différence entre la connaissance commune et la connaissance scientifique. Est-ce qu'on peut prendre, par exemple, comme exemple, le fait que nous croyons spontanément, nous attribuons spontanément, voilà l'expérience commune, une activité au corps qui flotte. Nous croyons qu'il flotte de par cette activité. Mettez un bout de bois dans votre baignoire, vous croirez qu'il flotte de lui-même. Mmh. Or, ça n'est pas lui qui flotte, dit Bachelard. Quand on veut enfoncer un corps dans l'eau, ça n'est pas lui qui refuse, c'est l'eau qui résiste. Est-ce qu'on n'est pas là dans le modèle, justement, d'une expérience avec laquelle, pour le coup, il faudrait rompre pour élaborer une connaissance qui n'a plus rien de commun, mais qui devient scientifique.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, il y a des expériences, hein, celle du bâton dans l'eau, si on pense à la figure cartésienne. Hein, mais
ma raison le redresse aussitôt,
exactement,
dit Descartes. Ouais.
C'est la raison qui redresse. Et bien, j'ai caché Bachelard cette idée qu'effectivement, il y a des expériences, ces expériences en fait du monde, que la fonction en fait de la méthode hein, est de médiatiser. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que, au fond, l'expérience première, hein, au sens donc de subjectif ou existentiel du terme que nous faisons en fait du réel, cette expérience première, il s'agira de la combattre. Et donc entre nous et le monde, il va y avoir la médiation en fait de ce laboratoire, enfin du laboratoire, des dispositifs et des outils du laboratoire de du savant, enfin du laboratoire de la cité, des sciences, pourrait-on dire, telle sorte que finalement entre moi et le monde, il n'y a plus l'immédiateté en fait de l'image, mais il y a la médiation des dispositifs de l'activité connaissante.
Mais cette médiation qu'il propose, cette utilisation du concept, cette façon qu'il a donc d'interposer entre lui et l'expérience immédiate du monde le concept, et de donner en même temps le sentiment, par là même, de laisser de côté le monde dans sa dimension la plus empirique, la plus sensible, se fait en même temps au nom même d'une certaine forme de fidélité au rapport qu'il avait lui-même établi au monde dans son enfance. C'est solidairement, et c'est là véritablement que ça devient vertigineux, c'est que c'est en pleine solidarité avec les expériences de son enfance qu'il établit la nécessité de mettre des intermédiaires entre lui et le monde.
Oui, tout à fait. Et ça, je trouve, ça me semble très intéressant à pointer, y compris aujourd'hui. Je veux dire.
On retrouve ça dans son activité de prof, d'ailleurs. Hein.
Tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça me semble central parce que on pourrait dire que autant le poétique, comment dire, nous installe dans un pays. Hein, poétiser, c'est être d'un pays particulier, ce qui n'est pas du tout pour autant une apologie du terroir au sens sulfureux que pourrait avoir ce terme. Autant de l'autre côté, on pourrait dire que la fonction en fait de l'épistémologie combattante, c'est de nous dépayser. Hein. Mais chez Bachelard, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il tient les deux, hein, comme on a cessé de le dire. Et donc, comme il tient les deux, ce qui s'engage là, c'est le fait que si effectivement le rôle de la connaissance scientifique, c'est de nous dépayser pour chercher finalement à trouver des éléments de connaissance objectifs, autant la fonction du poétique qui demeure présente est de nous rappeler que nous sommes d'un sol, si l'on peut dire, un terme qui pourrait peut-être utiliser. C'est-à-dire que on pourrait dire que l'un contrebalance l'autre. L'implication en fait poétique du rapport au réel contrebalance l'abstraction du rapport polémique que l'épistémologie a construit.
Le fait est que rien n'est plus dépaysant que l'accent profondément bourguignon et tellurique de Bachelard. C'est-à-dire que pour le coup, l'ancrage dont témoigne le son de sa voix est en lui-même profondément dépaysant, Jean-Philippe Hiroux.
Oui, c'est dépaysant, mais je dirais, ce qui me semble important d'entendre, c'est que ce soit effectivement un accent paysan, je vais dire, qui parle d'une activité connaissante qui nous dépayse. Et je dirais, ça me semble central aujourd'hui, parce que si on voulait penser un peu l'actualité avec Bachelard, ce qui me semble en jeu précisément dans les problématiques contemporaines attachées à ce qu'on appelle l'écologie, pour dire les choses très, très rapidement, ce qui me semble en jeu, c'est le fait précisément qu'on a parfois tendance à oublier que la connaissance que nous avons du monde ne tient pas lieu d'expériences premières que nous faisons de ce monde. Et lorsque notre connaissance dans son rapport au réel devient très abstraite, on oublie ou on néglige effectivement ces implications qui font qu'effectivement on est de quelque part, qu'on est d'un pays des eaux vives, si on pense encore aux berges qu'il évoquait tout à l'heure.
Alors vous avez parlé de sa dernière œuvre, son œuvre inachevée. Donc la dernière qu'on connaisse, c'est la flamme d'une chandelle. Et en fait, il meurt sur la poétique du feu.
Tout à fait.
Dont voici quelques lignes. Il dit « Mon premier oiseau de feu, je l'ai vu plonger dans ma rivière. » Où l'on retrouve, alors là pour le coup, véritablement, on parlera des parterres célestes quand on parlera d'imagination. Ici, on retrouve ce mélange du feu et de l'eau. On aurait pu parler de Bachelard, écrivain surréaliste d'ailleurs. Mais j'en finis. « C'était un grand jour de soleil. » Quand la rivière porte justement son nom d'aube, rivière agrandie par l'enfance, tranquille et toute bleue comme le ciel. L'oiseau de feu surgit, tel une flèche lancée au firmament. Le cri strident, d'où venait-il? De l'oiseau de lumière ou de l'enfant étonné? De l'enfant solitaire? Bien vite, l'oiseau, bousculant le miroir, projetant des perles d'eau qui furent peut-être son seul butin, repartit vers le ciel. C'était un marin pêcheur, bleu comme du fer chauffé. L'oiseau disparut, les rêves commencent.
Dès que nous réveillons, nous, les raids élémentaires et qui touchent les éléments matériels, il semble que nous tenions de plus près les forces du monde. Il semble que nous cessions d'être spectateurs passifs pour devenir acteurs du drame cosmique. Par l'imagination, nous sommes actifs. En réveillant en nous ces images actives, ces images qui ont accompagné l'homme dans ses premiers travaux, la poésie devient en nous une force réelle, une force salutaire. Elle nous engage vraiment dans le monde. L'essentiel est d'aller sans cesse à l'origine de cet engagement. C'est par cette nature, par cette vertu d'engagement que se désignent les images matérielles. C'est pourquoi j'ai confiance en une doctrine des quatre éléments matériels comme base d'enquête dans la réalité profonde de la poésie. Thank you.
Merci Jean-Philippe Pierron, merci d'être venu nous voir, d'avoir commencé avec nous donc cette semaine sur merci. Gaston Bachelard. Une semaine dont le seul but, encore une fois, donc, hein, c'est de donner envie de le lire, de le fréquenter, qu'il soit poète ou épistémologue. Allez-y, c'est merveilleux. Je signale, tiens, Jean-Philippe Pierron, ce que j'ignorais au début de cette émission, que vous êtes vous-même l'auteur d'un livre, Le climat familial, une poétique de la famille, un livre dont vous me dites qu'il est bachelardien, ce qui fait envie. C'est aux éditions du CERF. De Bachelard, et non pas Bachelard, je le dis à l'attention des internautes qui vont me reprocher cette façon de dire les choses. De Bachelard, donc, vous avez entendu deux textes, un extrait de L'eau et les rêves, un autre de La flamme d'une chandelle. Deux textes absolument remarquables, on reviendra dessus tout au long de cette semaine qui alternera poétique et épistémologie. Pour l'heure, il est 10h50 sur France Culture, on retrouve avec bonheur le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Alors il y a des jours comme ça, on va passer de Bachelard à Spinoza.
Exactement, on passe de Bachelard à Spinoza, mais un Spinoza revisité et modernisé par le philosophe David Rabouin, qui est l'un des quatre directeurs de la collection Métaphysics au PUF, dont on a déjà parlé ici, et qui vient aujourd'hui nous parler de son dernier livre intitulé « Vivre ici, Spinoza, éthique locale ». Bonjour David Rabouin.
Bonjour Adèle.
Alors vous présentez dans votre livre un Spinoza, disons, dépouillé de sa dimension métaphysique, c'est-à-dire du premier livre de l'éthique, où Spinoza pose l'unicité de la substance, pour accorder une place plus grande à ce que vous appelez la définition des affects, sur laquelle repose toute l'éthique spinoziste, dites-vous. Et cela, je vous cite, sans présupposé du système métaphysique exposé dans les deux premières parties de l'éthique. Alors, est-ce que le but de votre livre est effectivement de présenter un Spinoza non métaphysique, David Rabouin ?
Ça serait un peu paradoxal de publier un Spinoza non métaphysique dans une collection qui s'appelle Métaphysique.
Exactement.
En fait, tout dépend de ce qu'on appelle métaphysique. Donc, c'est vrai qu'il y a une image de la métaphysique qui est liée à aux grands récits, aux grandes explications dont on est censé être sorti avec la soi-disant postmodernité, comme disait Lyotard. Mais ce n'est pas du tout évident que ça soit la seule définition de la métaphysique. Et mon projet, ce n'est pas tellement de débarrasser Spinoza des deux premiers livres. C'est plutôt de débarrasser ma lecture de Spinoza d'un certain nombre de choses qui, moi, me gênent finalement au fur et à mesure des années. Et ces choses sont liées à cette vision globale qui nous est donné dans les deux premiers livres. Mais il y a un certain nombre de choses, beaucoup en fait, que j'essaye de conserver et qui font l'armature d'une métaphysique des affects.
Ça veut dire que c'est pas tant un livre sur Spinoza qu'un livre à partir de Spinoza ?
C'est un livre à partir de Spinoza, parce que Spinoza, c'est un auteur que je porte depuis longtemps. J'ai appris la philosophie dans Spinoza, c'est ce que je raconte au début du livre. Et pendant longtemps, j'avais beaucoup de mal à lire les autres philosophes qui m'intéressaient peu. Mais après 20 ans de pratique et après avoir lu beaucoup de commentaires, il y a aussi un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à expliquer ou qu'on a du mal à accepter. Et moi, une des choses que j'avais le plus de mal à accepter dans les deux premiers livres de l'éthique, c'est cette image du monde comme un grand ordre de la nature où il y a des causes qui s'enchaînent les unes aux autres. Et donc, j'ai essayé de voir si on enlevait ça, est-ce qu'on enlevait tout ? Et évidemment, c'est pas la première fois que des gens ont cette idée, parce qu'en fait, les grands commentateurs des années 60, que ça soit Deleuze, que ça soit Matron, et puis un peu plus tard Negri, ils ont eu la même idée qu'il fallait essayer.
Oui, c'est
de partir,
ce que j'allais vous dire. On a l'impression que vous présentez un Spinoza deleuzien, en fait.
Alors, plus ou moins. C'est-à-dire que là aussi, j'ai certaines insatisfactions de ces lectures, et la principale insatisfaction, c'est que je pense que justement, on peut pas juste effacer les deux premiers livres de l'éthique. Ça serait trop facile. Si on veut arriver à partir des affects et de la logique des affects, qui est à partir de la troisième partie, en fait, il faut avoir une notion de puissance, hein, puisque les affects chez Spinoza, ils sont définis comme des variations de la puissance d'agir. Et si on effaçait les deux premiers livres, on n'aurait plus de notion de puissance, parce qu'on n'aurait plus de choses comme ça dans l'ordre des causes. Donc tout l'enjeu et puis toute cette idée de faire une éthique locale, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir une notion de puissance qui soit une notion locale et pas globale ? Donc ça, c'est vraiment le projet du livre. C'est un projet qui est vraiment, je me rends compte en l'expliquant, est métaphysique.
Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, vous n'essayez pas du tout de présenter un Spinoza non métaphysique, mais un Spinoza à partir duquel on pourrait penser ce que vous appelez une éthique locale. Alors, par local, il faut entendre cette provocation finalement à penser la possibilité d'une éthique qui soit à la fois rationnelle et systématique, mais sans accepter le point de vue de surplomb, du point de vue global, que permet la mise en place d'un régime transparent du monde à la raison.
C'est-à-dire, l'éthique de Spinoza, pour parler très simplement, elle est fondée sur une idée qui est vraiment très forte et qui est assez originale, c'est que, en fait, les valeurs ne préexistent pas au désir des êtres humains. Donc le point d'ancrage de l'éthique de Spinoza, c'est qu'on va partir du désir et on va partir des affects, et à partir de ça, on va regarder un monde de valeurs qui dérive de ces désirs. Donc, si on veut faire ça, on a deux solutions, ce que je disais tout à l'heure. Ou bien on se donne a priori une idée, une essence, du désir, c'est-à-dire qu'il y aurait des choses et puis elles auraient des désirs et puis on saurait les assigner. Par exemple, vous avez un désir, j'en ai un, nous avons tous un désir, ça serait une manière de voir les choses. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est doublement problématique. D'abord, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a un grand ordre des choses, puis chacun en a notre place avec notre petit désir. Et puis, et il s'impose un autre problème, c'est que ce n'est pas du tout comme ça qu'on le vit. Nous, on change, notre vie, elle change, nos affects, ils changent beaucoup. Ils changent même des fois à tel point qu'on ne se reconnaît plus. Et donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut donner une définition du désir qui repartirait à partir de ce qu'on vit ici ?
Et vous commencez votre livre comme ça, avec l'importance que vous donnez à la description ou à la prise en compte des affects vécus, oui, indépendamment de leur cause, finalement.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment très, très... Alors, pas indépendamment de leur cause, parce qu'une autre grande idée de Spinoza, c'est qu'en fait, ce qu'on prend pour les causes des désirs, c'est-à-dire, nous, on pense que nos désirs sont créés par l'extérieur. Ça, c'est tout à fait normal. On pense que, voilà, je désire ce verre d'eau parce que j'ai soif. Non, c'est pas un bon exemple d'ailleurs, parce que là, on voit bien que c'est pas la cause. Mais on pense que je désire cette belle femme parce qu'elle est belle. Et justement, si on prend l'idée de Spinoza au sérieux, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette femme est belle parce que vous la désirez, et les gens ou les choses que vous désirez, ils ont ces valeurs parce que vous les désirez. Donc de ce point de vue, il faut absolument arriver à partir du désir, mais voir que les causes ne sont pas à l'endroit où on les croit. On croit que nos désirs sont causés par l'extérieur, mais en fait, ils sont causés par l'intérieur. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à comprendre cette causalité intrinsèque. Et c'est ça que j'ai essayé de refaire, parce que chez Spinoza, cette causalité intrinsèque, elle a un nom un peu savant, elle s'appelle le conatus, c'est l'effort pour persévérer dans son être, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait bouger, c'est ça qui nous fait vivre, mais il faut arriver à le redéfinir. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire en partant juste de cette idée très simple que la manière dont on vit nos affects, la manière dont on vit nos désirs, c'est comme ça. On les vit comme étant des variations de notre puissance d'agir, même si on ne sait pas ce que c'est que cette puissance d'agir. Et puis après, ce que j'ai essayé de faire, c'est en partant de cette donnée que j'appelle locale, puisqu'elle est donnée à un moment donné, c'est d'essayer de reconstruire des chemins, de reconstruire une vie à partir de ça. Une vie qui peut avoir des contours assez compliqués. Je donne quelques exemples dans le livre.
Voilà, donc je renvoie les auditeurs à votre livre qui s'appelle « Vivre ici », Spinoza, éthique locale, qui est donc plutôt un livre à partir de Spinoza qu'un livre sur Spinoza. Et on trouve ça dans la collection Métaphysique, ce que vous dirigez avec trois autres personnes, David Rabouin, au PUF. Merci beaucoup.
Des livres partent de Spinoza, mais ne le savent pas. Celui-là, au moins, en est conscient. Suivi. Adèle, vous vouliez nous parler également des répétitions.
Oui, les éditions Sorbonne Nouvelle publient en ce moment un livre sur les musiques répétitives, dont l'auteur est Johan Girard, qui enseigne la philosophie de l'art et l'esthétique musicale à Paris 3. Les musiques répétitives, ce sont ces musiques qui reprennent un même motif rythmique et ou mélodique de manière inlassable et lancinante. Alors vous avez pu en entendre au cinéma par exemple, car l'un des musiciens répétitifs les plus connus, Philip Glass, compose beaucoup de musique de films. Alors minimaliste et répétitive, ces musiques soulèvent plusieurs interrogations philosophiques qui sont très intéressantes. Que peut-on, que doit-on entendre dans les boucles infinies que déroule la musique de Steve Reich ou de Philip Glass? Quelle forme d'écoute leurs œuvres sollicitent-elles? Et surtout, quel rapport au temps et à la mémoire se trouve induit par la sempiternelle itération du similaire? Voilà, c'est un ouvrage d'esthétique, parfois assez technique, très précis, qui propose des analyses très serrées des musiques, mais qui montre bien comment la musique peut engendrer des réflexions d'ordre philosophique. Et c'est très convaincant, ça s'appelle Répétition, l'esthétique musicale, c'est par Johan Girard, et on trouve ça aux éditions Sorbonne Nouvelle.
C'est noté, merci à tous. Bachelard, Spinoza et la sempiternelle itération du similaire, c'était la poétique du jour. Une émission que vous pourrez retrouver sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, des bibliographies complètes dans la mesure du possible, mais aussi l'écoute en ligne des émissions du mois. C'est la suite demain de cette semaine sur Bachelard, en compagnie de Pascal Nouvel, avec qui nous parlerons plus en détail de l'épistémologie bachelardienne.
À demain donc, de 10h à 11h comme tous les jours, du lundi au vendredi. France Culture, 10h59. Dans un instant, question d'époque.